La Méridienne.
Il est l'heure de retrouver notre invité du jour. Bonjour Sophie Moissonnier.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être venu nous voir. Vous êtes professeur de yoga à Yogatitude. Comment est-ce qu'on devient professeur de yoga?
Alors, de plus en plus de façons de devenir prof de yoga, puisque il n'y a pas de diplôme d'État. Donc, moi, j'ai fait une école qui a duré 4 ans au sein du yoga de l'énergie. Après, il y a plein de sortes de formations. Et puis, pendant le Covid, il y en a eu une pléiade parce que les gens se formaient par Internet.
Ok.
Alors, il y a un peu de tout.
Quoi, des gens qui sont...
Je ne fais aucun commentaire sur la chose. Je dis simplement, chacun son chemin.
Ok.
Voilà.
Très bien. Et on s'était rencontrés, je le disais en introduction, en juin 2023. Et il me semble que vous nous aviez expliqué qu'il y avait presque autant de yoga différents qu'il pouvait y avoir d'enseignants, de professeurs de yoga.
Oui, alors j'aime bien dire je suis professeur de yoga, j'exerce la profession de professeur de yoga. Parce que, déjà, le yoga, il nous apprend à nous désidentifier du rôle qu'on peut avoir dans la société. C'est bien pratique quand même.
Ouais.
Parce que du coup, on a une espèce de liberté, finalement, de se dire, tiens, je ne suis pas que cela. D'ailleurs, j'ai fait autre chose avant, souvent.
Ouais.
Je ferai peut-être autre chose après. Même si c'est ma passion, là, maintenant, et que ça dure déjà depuis un certain temps. Donc il y a plein de voies de yoga. Moi, ça a été finalement de se dire, je pratiquais depuis très longtemps le yoga, mais me dire, est-ce que je pourrais avoir un projet à moi, rien qu'à moi, et qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aime vraiment. Donc ce questionnement-là, on l'a pas toujours facilement dans la vie, surtout quand on a des enfants, une profession, besoin de faire tourner la marmite entre guillemets. Hein. Et du coup, je ne vais pas dire un burn-out, parce que j'apprivoise pas ce terme-là, mais un burn-in. C'est comme si on voulait brûler à l'intérieur toutes les toxines, tout ce qui empêche le cerveau d'être libre finalement.
Ouais.
Et l'éclosion d'un projet, ça s'est fait un beau matin. Je me suis dit, Et à ce moment-là, il y a 12 ans, j'ai dit, je vais créer ma boîte, je vais faire du yoga. Voilà. Et je vais enseigner le yoga, voilà. Et on m'a dit, t'es complètement folle, mais bon, c'est pas grave. Tu vas en vivre ? Bah oui, en fait, et ouais. Parce que j'ai envie de faire ça, voilà. Et puis, après, chaque personne, son chemin.
Et ça sert à quoi, le yoga ?
Alors, le yoga, c'est une discipline, déjà, premièrement, c'est important de le souligner. C'est-à-dire quelque chose qui nécessite qu'on s'y attarde un peu, quoi. Et qui permet de relier le mental avec le corps. Souvent, on est un petit peu trop dans le corps ou un peu trop dans le mental. Mais joindre les deux, essayer de relier le mental et le corps pour trouver un équilibre, justement. Pas être trop dans l'action, mais pas être trop dans le mental non plus. Essayer de s'équilibrer.
Ouais.
Ça sert à s'équilibrer, le yoga.
Ok.
Voilà. Mais en passant par le corps, parce que, en fait, c'est une discipline, on dit psycho-corporelle. C'est pas un sport, parce qu'il n'y a pas la notion de compétition.
Ouais.
Même si on peut pratiquer le sport sans compétition. Mais c'est une discipline psycho-corporelle. Alors, il y a des yogas qui sont plutôt dévotionnels, où on va être plutôt très rapidement dans un état méditatif. Dans notre culture, je pense que c'est très compliqué.
Ouais.
Oui, c'est pour ça que c'est mieux de passer par le corps, parce que
on est 300 à l'heure au quotidien, voilà.
300 à l'heure, et puis le mental est colonisé par plein de préoccupations matérielles, alors que il est des pays où c'est encore pas tout à fait ça. J'évite de faire trop d'exotisme entre guillemets, faut me situer dans notre société, en adaptant, en ajustant le yoga à qui nous sommes ici dans notre société. Voilà.
Et donc, c'est exécuter des mouvements, prendre des positions et se rendre compte de son corps, en fait, se concentrer sur son corps.
Voilà, les positions, on appelle ça posture ou asana. Elles peuvent être prises en dynamique, elles peuvent être maintenues en statique. Souvent, on commence par faire des mouvements, parce que la statique, c'est pas facile tout de suite pour la plupart d'entre nous. Donc on va progressivement ralentir, on va dire, le corps pour calmer le mental. Il y a des yogas où on va vraiment complètement se relâcher, comme le yin yoga qu'on pratique chez nous. Ça se développe beaucoup. On dit que c'est un yoga plutôt restauratif qui vient plutôt de Chine, avec des notions de médecine traditionnelle chinoise. Il y a des yogas plutôt dynamiques où on vient d'abord brûler entre guillemets les toxines en chauffant le corps avec des enchaînements très rapides. Et puis moi, je pratique plutôt du yoga équilibrant, où on va à la fois chercher à se relâcher, se ressourcer, mais aussi se redonner du tonus au corps. Mmh. Et puis, pour finalement essayer d'approcher un état méditatif. Je dis bien approcher, parce que les gens qui me disent « je médite tous les jours à la même heure », voilà quoi. Ouais. C'est bien dans l'album photo, mais en fait, la réalité, elle est autre. Quoi. Ouais. On essaye d'approcher cet état-là.
Ok.
Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on devient observateur de ça.
Très bien, c'est de la recherche en fait,
tendre
vers.
C'est tendre vers, voilà.
Vous n'êtes pas la seule prof à Yogatitude, il y a une petite équipe, je crois qu'il y en a cinq.
Voilà, alors il y a trois profs de yoga, une prof de Qigong, une prof de Feldenkrais. Ouais. C'est un peu voisin du yoga. Nous sommes donc trois profs de yoga France qui enseignent Vinyasa, Yin Yoga et Hatha, c'est-à-dire yoga équilibrant comme moi. Et puis Johanna, pareil, Vinyasa, Yin et yoga équilibrant. Moi-même, je n'enseigne plus le Vinyasa parce que j'ai passé les 60 ans et puis que bon, je me dis qu'il y en a qui font ça mieux que moi. J'aime bien le pratiquer pour moi.
Le Vinyasa, c'est celui
très tonique. Donc okay. Il faut faire, montrer, parler. C'est quand même, c'est très exigeant.
Ouais.
Mais voilà, je trouve ça passionnant. Après, ça intéresse un certain public, souvent des sportifs, des gens qui aiment bien, qui ont besoin de ça pour se relaxer ensuite. Après, les autres profs, il y a une prof de Qigong qui intervient une fois par mois. Ouais. Et puis une prof de Feldenkrais, c'est une discipline voisine du yoga, mais qui a complètement d'autres origines. Et Isabelle Vess, qui vient tous les vendredis et une semaine, un samedi par mois, enseigner le Feldenkrais. Elle est musicienne au départ. D'accord. Et cette méthode-là, eh bien, elle a voulu l'investir pour aider les musiciens à
faire attention à la posture.
Oui.
Quand ils jouent de la musique.
C'est ça.
Parce qu'on peut se faire mal si on se sent de travers.
Imaginez un violoniste, quelque chose à faire au niveau des cervicales quand même.
Bien sûr.
Voilà.
J'ai découvert qu'il y avait des kinés pour les spécialistes des musiciens genre de choses, parce qu'ils ont des problématiques particulières. Vous avez parlé du public qui vient en disant que pour un certain type de yoga, il y avait plutôt des sportifs. Moi j'ai une petite idée en tête, je me dis que je suis pas assez souple pour faire du yoga, que c'est pas fait pour moi. Est-ce qu'il y a des limites qui font que certaines personnes peuvent pas faire de yoga?
Alors non, il y a aucune limite, puisque en fait on va chercher toujours à s'adapter, à adapter le corps, hein. C'est pas le corps qui doit s'adapter au yoga, mais le yoga qui doit s'adapter à la personne. Donc on va trouver des ajustements dans la posture, mais on va utiliser aussi des outils, des sangles, des coussins pour aider, pour justement compenser les asymétries du corps dues à des traumatismes, un manque de souplesse, différentes choses, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi avec des genoux abîmés, des hanches abîmées. On a le corps qu'on est, hein. Et puis on fait avec, et non seulement on fait avec, mais en plus de ça, on peut progresser
dans notre pratique.
Dans notre pratique, et on part de là où on est.
OK.
Il y a rien à atteindre, donc si on peut trouver un peu de confort dans ses hanches, des personnes qui arrivent qui des fois peuvent pas plier leurs genoux et qui au bout de quelques mois de pratique, retrouvent une assise genou plié.
OK.
Parce que petit à petit, doucement, il y a rien à atteindre. Bon, on fait ça aussi chez le kiné, hein.
Ouais.
Mais souvent, il y a des kinés qui envoient faire le yoga parce que allez, prenez-vous en charge maintenant. Mmh. Allez dans un cours de yoga, faites-le en groupe, faites-le à la maison et justement, prenez-vous en charge.
Mmh. Et il y a des limites d'âge
Non plus, il n'y a pas de limite d'âge. Après, on peut faire du yoga assis sur une chaise. Si on ne s'allonge pas, on peut très bien faire assis sur une chaise. Travailler le souffle nécessite simplement d'avoir un dos bien droit ou bien d'être couché sur le dos, si on peut. Il y a plein de portes d'entrée, en fait, dans la pratique du yoga.
Et vous proposez même des cours parents-enfants.
Voilà, donc il y a des cours parents-enfants une fois par mois dans le cadre d'ateliers.
D'accord.
Voilà.
Ça ressemble à quoi le lieu où sont donnés les cours à Yogatitude ?
Alors, c'est un espace que j'ai créé en 2015, donc il y a déjà un petit moment. Et puis, c'est très douillet puisque l'espace fait 80 mètres carrés, donc... En général, en moyenne, il y a 10-12 personnes, il y a de la place, on peut étendre bien ses bras, pas se sentir gêné. Il y a un chauffage par le sol, donc c'est très douillet l'hiver, on est bien content, c'est frais l'été. Et voilà, c'est chaleureux, il y a beaucoup d'œuvres d'art parce que j'aime bien ça.
Et j'ai vu sur votre site internet, il y a deux cabinets thérapeutiques.
Voilà.
Parce que... Il y a des médecins
Alors, il y a des thérapeutes. Donc, au premier étage, il y a des cabinets, effectivement, occupés par des personnes. Alors, il y a une naturopathe actuellement. Il y a une personne qui est psychologue, qui est à la retraite, psychothérapeute, pardon, qui a travaillé aux hôpitaux de Lyon. Il y a une personne qui pratique le Reiki, voilà, des disciplines, la réflexothérapie, une personne qui fait de la réflexothérapie et qui s'est occupée longtemps par son métier de bébé, donc elle s'occupe bien des bébés et des petits-enfants, et voilà, différentes personnes qui passent, qui restent, certains, d'autres qui testent leur activité, qui repartent, et voilà.
Et c'est quoi les nouveautés qu'il pourrait y avoir en cette rentrée de septembre ? Est-ce qu'il y a du neuf ?
Oui, alors ce qu'il y a comme neuf, en fait c'est pas complètement neuf, mais l'année dernière, j'ai voulu, parce que je pratique l'apnée, et j'ai voulu embarquer un peu mes copains de plongée, d'apnée, là-dedans, et ils étaient très, très contents de se rendre compte qu'on pouvait calmer le mental, parce que l'écueil dans l'apnée, c'est que le mental il commence à bavarder, et alors là hop, on commence à avoir des spasmes et se dire donc on peut prolonger l'apnée en calmant le mental par des exercices de méditation, des exercices de souffle. Et donc j'ai créé l'année dernière, et je continue cette année, je suis contente parce que même il y a des gens qui vont s'inscrire à l'apnée maintenant parce que ils savent que je fais de l'apnée et du yoga.
Ok.
Voilà, donc ça, c'est...
Il y a un point entre les deux disciplines.
Il y a vraiment un lien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais le yoga, on trouve des liens avec plein de disciplines. L'escalade, par exemple, je pratique l'escalade. C'est pareil. Vous êtes dans votre souffle, vous n'êtes pas dans votre mental. Donc, c'est un pont vers l'inconnu, le souffle. Parce que... Vous ne savez pas où votre main elle va aller être, avec quelle prise, on n'en sait rien, on ne voit pas. Mais par contre, on est dans le souffle, on se fait confiance et on y va.
Mais dans l'apnée, j'ai l'impression que si le mental il commence à s'agiter, c'est aussi pour survivre peut-être, parce qu'on ne respire pas justement.
Justement, on peut rester vraiment longtemps sans respirer en fait.
Ouais.
Voilà, parce que si on s'est bien oxygéné, si on fume pas, si on a une bonne hygiène de vie, parce que faut pas l'oublier, ça se conditionne aussi le corps. Mais le corps, il est extraordinaire, il a des capacités incroyables. On en découvre toujours plus des capacités de notre corps. Mais par contre, c'est notre mental qui va être l'obstacle, parce que il va dire, le mental, il a horreur de l'apoxie.
L'apoxie, c'est le manque d'oxygène.
C'est ça. Ouais. Et en fait, il envoie des signaux. Et donc, du coup, le tronc cérébral, il envoie des messages au diaphragme qui se met à spasmer, alors que dans le sang, il y a tout ce qu'il faut.
Okay.
On n'est pas du tout, on peut rester encore. Le record d'apnée statique, c'est 11 minutes.
11 minutes.
Actuellement. Ouais. Voilà, en statique.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et comment on fait, qu'est-ce que le yoga, il apporte justement pour calmer le mental,
Alors, en fait...
Parce que du coup, là, c'est que vous avez carrément parlé de réactions physiques avec les spasmes abdominaux, etc.
Oui, c'est ça. Bah, le corps et le mental, ils sont liés, finalement. Le corps, ben, il va stresser parce que le mental, il est agité, hein, c'est tout. Donc, on va calmer le mental par plusieurs méthodes. Donc, déjà, on se prépare avant, parce que ça, c'est vraiment important, être plutôt relaxé. En même temps, il faut aussi avoir une bonne cage thoracique pour savoir aussi bien se ventiler avant. Hein. Et puis, quand on est en apnée, on va essayer de dériver son attention sur quelque chose. Au lieu de dériver son attention sur « je vais mourir parce que je suis au fond de l'eau », on va dériver son attention sur « oh, c'est rigolo, le petit bruit des bulles qui sortent de mes oreilles ou autour de mes oreilles ».
Okay.
On dérive sur des choses, parce qu'on apprend aussi à ne pas s'identifier à. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission.
Ouais.
Le principe du yoga, c'est qu'on va se désidentifier. On est conscient qu'on produit une pensée, mais on n'est pas cette pensée. Mmh. C'est ça que le problème se pose à un moment donné. À un moment donné, j'ai une pensée, mais elle m'embarque tellement que je m'identifie à cette pensée. Un enfant, par exemple, il tombe, il se blesse au genou.
Ouais.
Il voit du sang. Ça y est, il se met à hurler. Mmh. Vous venez vers lui, vous lui dites « Oh, regarde le petit oiseau !» Ah, ça y est, il n'y pense plus, il a un sourire, il est fini, il ne pleure plus. En fait, on est comme des enfants. Si on peut dériver sa pensée, ne pas s'identifier à ce bobo qu'on a à l'âme parce que j'ai trop peur de mourir et c'est juste normal, eh bien, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sans dire d'être complètement inconscient. On n'est pas shooté du tout. Hein. Faut faire attention parce que c'est quand même... ça amène une certaine ivresse, l'apnée, quand on aime ça. Hein. Donc, faut faire attention. C'est pour ça qu'on travaille en binôme. Mais voilà quoi, c'est vraiment intéressant d'aller chercher non pas ses limites vraiment en termes de compétition, mais prendre conscience qu'en fait la principale limite c'est notre mental.
Ouais.
Mais dans la vie en général.
Ouais. Bon, c'est à étudier, à approfondir et pour ça, pourquoi pas venir faire un tour à Yogattitude. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec vous?
Alors, par mail, par le site www.yogavillefranche.fr. Ouais. Voilà, et puis coup de fil, ça va vite, je réponds vite, tout ça. Bon. Sauf que je m'absente du 20 septembre au 30 septembre, c'est France et Johanna qui gardent la boutique. Moi, je pars en voilier faire un stage yoga apnée.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Mais donc, il y aura une assistante pour prendre vos appels, les profs qui sont là, et voilà.
Et j'ai vu qu'il y avait peut-être des temps de découverte aussi, et d'essais, notamment au mois d'octobre, je crois, il y a des stages qui sont organisés.
Alors, il y a un atelier samedi, là, ici, ce samedi-là, qui a pour thème la colonne vertébrale. L'axe vertébral, notre axe de vie. En octobre, j'invite Mathieu. C'est pas lui, c'est un autre. Mathieu, il vient de Bretagne, il vient de l'Alleu, et c'est quelqu'un qui fait autorité dans le yoga et qui a écrit plusieurs livres, Yoga Nidra, Kurma Yoga, et qui est vraiment passionnant. Donc il vient, il nous fait le bonheur de venir une journée. Donc les inscriptions sont ouvertes. Voilà, et puis plein d'ateliers, vous trouvez ça sur le site.
Yogavillefranche.fr. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir passé ce temps avec nous, Sophie.
La Méridienne.
Merci.